Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, vous êtes bien sûr RMC, il est 7h42. Et si c'était enfin le début de la fin de la guerre en Ukraine? Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de La Guerre des Mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. C'est aux éditions Alpha. Donald Trump, cette nuit, s'est dit optimiste sur un accord Russie-Ukraine. Et vous, Bruno Tertrais?
Non, je ne le suis pas. Mais il est normal que Donald Trump se dise optimiste. Il est normal qu'Emmanuel Macron dise il y a une petite chance, que c'est le jeu, c'est la diplomatie. Et puis, il ne faut pas désespérer non plus les opinions. Mais je ne crois pas du tout que la Russie, parce que c'est de là que le problème va venir, puisse accepter le nouveau texte qui est mis sur la table par les Américains en prenant compte les idées et les lignes rouges des Ukrainiens et des Européens.
Alors, ça veut dire que ces négociations, c'est du bluff, encore une fois?
C'est pas forcément du bluff, non. Je crois que d'abord, l'administration Trump, après Gaza, voulait vraiment faire le coup, entre guillemets, de l'Ukraine. Ça n'est pas totalement du bluff. Et puis, ça permet aussi aux Ukrainiens de montrer qu'eux, ils sont toujours prêts à négocier. Ça permet aux Européens de montrer qu'ils ne veulent pas bloquer les initiatives de l'administration Trump. Et puis, c'est vrai qu'il y a une petite chance, une toute petite chance, pour que ça débouche sur un processus qui sera long. C'est certainement pas pour les jours qui viennent, mais qui à un moment coïncidera avec une situation sur le champ de bataille qui est le moment où à la fois Russie et Ukraine voudront négocier. En même temps, on n'y est pas.
Sauf qu'on n'y est pas sur le champ de bataille, ouais. Sur le front, ça continue à bombarder, il y a chaque jour des morts.
Ben évidemment, parce que la manière de négocier de la Russie, c'est deux choses. D'abord, c'est ce qui est à toi, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable. Première chose. Deuxième chose, c'est pendant la négociation, les bombardements continuent. Or, c'est justement là que le bât blesse, parce que les Ukrainiens et les Européens ont toujours dit, attendez, pour pouvoir négocier correctement, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. On négocie pas sous les bombes, sinon ça n'a pas de sens. Et la Russie a toujours refusé ce cessez-le-feu. Et donc, on peut dire que, en théorie, on pourrait avoir soit un cessez-le-feu, soit un accord de paix. Mais de toute façon, si on veut un accord de paix, il faudra commencer
un
cessez-le-feu. Et évidemment, or, la Russie n'en veut pas.
L'Ukraine est en faiblesse.
Oui, mais la Russie aussi. Si vous voulez, à force de dire que l'Ukraine est en difficulté, on oublie que la Russie commence elle-même à souffrir, notamment du fait des frappes ukrainiennes sur son complexe de production et de distribution de pétrole et de gaz. Les difficultés russes se voient moins, mais elles sont réelles. Simplement, tout l'art du Kremlin, dans la grande tradition du KGB, c'est de persuader l'opinion occidentale que les Ukrainiens sont faibles et qu'ils demandent, il suffit de pousser un petit peu pour qu'ils fassent la paix. Mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a des difficultés militaires sur le terrain, c'est pas parce qu'il y a un scandale de corruption réel dans l'entourage de Zelensky que la population ukrainienne est prête à crier grâce.
Vous dites, Bruno Tertrais, que même la Russie finit quand même par être touchée. Mais dans le même temps, on a toutes les opinions publiques ou les dirigeants européens, je pense notamment au ministre de la Défense allemand, qui dit ils sont en train de reconstruire leur arsenal, ils seront même peut-être prêts dès cette année, avec l'objectif d'aller plus loin et peut-être même de toucher la Pologne ou nos frontières.
En fait, les deux sont vrais en même temps. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine, depuis 2022, a transformé son pays en une gigantesque machine de guerre. Toute l'économie est dirigée vers la guerre. Alors c'est vrai que ça souffre, mais c'est vrai en même temps que, si vous voulez, c'est comme un train qui est parti et qu'on peut presque plus arrêter. Donc la reconstruction de l'arsenal militaire, la modernisation, tout ça, ça se fait. Et en même temps, derrière, l'économie du gaz et du pétrole, qui est le fondement quand même de l'économie russe, commence à souffrir. Donc, si vous voulez, dans le temps court, dans les années qui viennent, la Russie peut continuer à avancer militairement. Elle pourrait même, si elle le souhaitait, je ne sais pas si c'est le cas, à un moment, eh bien faire une petite attaque militaire ouverte contre un pays de l'OTAN pour nous provoquer. Elle sait qu'elle perdrait, mais elle essaierait de le transformer en victoire politique. Donc si vous voulez, les deux sont vrais en même temps. On a du mal à croire quand même que la machine militaire russe ne s'essouffle pas à un moment du fait de l'essoufflement de la machine économique, mais d'ici quelques années, malheureusement, c'est pas pour maintenant. Donc tout ça peut être vrai en même temps.
On apprend par la presse américaine, et c'est assez savoureux, j'allais dire, que le propre émissaire de Donald Trump donne en quelque sorte en coulisses des conseils aux Russes sur la manière de gérer le Trump. Alors, au fond, voilà comment il fonctionne. Si vous voulez obtenir un truc, voilà comment il faut lui parler.
C'est complètement hallucinant. Pardonnez-moi l'expression, mais je n'ai jamais vu ça. C'est quasiment de la haute trahison. En tout cas, si les démocrates avaient fait ça, je peux vous dire que les républicains diraient pendez-les haut et court. En fait, on comprend que, sans vraiment être surpris, on comprend que Steve Witkoff, l'émissaire américain, eh bien, il est complètement sous l'influence des Russes. En tout cas, il veut tellement faire plaisir à la fois à son président, bien sûr, et aux Russes, qu'il dit, écoutez, donnez-moi quelques idées, je vais faire croire que ça vient de chez nous. Enfin, c'est quasiment la
paysanne. Je vais faire croire que ça vient de chez nous. Sous-entendu, voilà, pour que ça passe avec Donald, voilà comment ça marche. Quoi.
Alors, l'art de la diplomatie, c'est aussi souvent de faire croire à l'autre que l'idée vient de chez lui. Mais simplement, là où on a quand même une manœuvre de manipulation digne du KGB, c'est que pourquoi est-ce que ces conversations sont sorties ? Un, parce que ça veut dire que les Russes les ont enregistrées, et deux, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils voient que les Américains sont en train de rééquilibrer leur position sur le fameux plan, et c'est une manière de dire, c'est vraiment des manières de crime organisé, de mafia et de KGB en même temps. Et là, ils sont en train de dire aux Américains, vous regardez toutes les saletés qu'on peut faire si vous commencez à avoir des positions qui ne nous plaisent pas. Pour moi, c'est exactement les méthodes du KGB.
Bruno Tertrais, on l'a appris cette nuit, 4 personnes, dont 2 Français et une Franco-Russe, ont été mis en examen, soupçonnés d'espionnage économique et d'ingérence au profit de la Russie. Est-ce que c'est pas une façon de redécouvrir qu'au fond, on est déjà en quelque sorte en guerre, c'est-à-dire en quelque sorte la Russie, déjà d'une manière ou d'une autre, en s'infiltrant, en s'ingérant, est en guerre avec nous.
Je crois qu'il faut faire très attention avec cette expression qui consiste à dire « nous sommes en guerre ». Pour la plupart des Français, « nous sommes en guerre », ça veut dire « c'est militaire, c'est la vraie guerre, c'est 39-45 ». Donc moi, je ne vais pas dire qu'on est en guerre, ou alors il faut avoir une définition de la guerre qui est tellement large que ça ne veut plus dire grand-chose.
Ils abîment.
Voilà, on est dans un affrontement avec la Russie qui s'affirme comme un adversaire de la France. Et tous les jours, on a effectivement des attaques non militaires de la Russie. Mais je préfère parler d'affrontement plutôt que de guerre, qui est quelque chose qu'il faut, à mon sens, réserver quand même à l'affrontement militaire proprement
dit. Et c'est parfaitement respectable, et j'allais dire même tout à votre honneur, justement, de le dire. Bruno Tertrais, une dernière question. On l'entend, demain, il a commencé à nous y préparer. Emmanuel Macron va annoncer le retour du service militaire, alors un service militaire volontaire. Est-ce que, effectivement, vous vous dites la France doit se préparer?
Oui, je crois qu'il faut se préparer, mais tranquillement. D'abord parce que nous ne sommes pas en première ligne. C'est les pays baltes, la Pologne et d'autres qui sont en première ligne. Il faut se préparer tout de même parce que il est normal que, pour dissuader la Russie, l'idée c'est de prévenir la guerre militaire, il faut pouvoir faire comprendre aux Russes que nous sommes forts, que nous sommes prêts à résister et que nous contribuerions à la défense de nos amis et de nos alliés très proches de la Pologne, de la République tchèque, de Roumanie, des pays baltes. Donc il faut pouvoir le dire, bien sûr, mais justement pour éviter que Vladimir Poutine soit tenté un jour de faire une opération contre un pays européen.
Merci Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Votre dernier livre, La guerre des mondes, retour de la géopolitique et du choc des empires, aux éditions Alpha. Tout à l'heure, François Hollande sera mon invité à 8h30. Je lui poserai aussi, évidemment, cette question de l'engagement ou non de la France sur une éventuelle défense.